show des bavards, les ondes du passé, les chroniques des terminales générales du lycée Marcel Gimond.
73 millions! Sais-tu à quoi ce chiffre correspond? C'est le nombre d'IVG pratiquées chaque année dans le monde.
Et chaque année, dans le monde, 47 000 femmes meurent encore à la suite d'un avortement à risque.
Vous rendez-vous compte de cette mortalité qui ne devrait pas exister? Vous rendez-vous compte de la grandeur de ce chiffre?
Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le show des bavards, les ondes du passé. Nous sommes
Apolline,
Chérine
et Angela, et comme vous l'avez certainement compris, nous allons aborder un sujet devenu pour le moins incontournable dans notre société, le droit à l'avortement.
Au fait, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est un droit protégé par une loi, surnommée la loi Veil, qui, depuis le 17 mars 1975, a établi en France la dépénalisation de l'avortement. Cela va faire bientôt 50 ans. Voté au milieu des années 70, quelques années après mai 1968, il est parfois contesté encore aujourd'hui.
Mais alors, comment la loi Veil a-t-elle vu le jour et peut-on la qualifier de tournant majeur dans notre société ?
Petit rappel au sujet de l'avortement au cours de l'histoire. L'avortement est une pratique ancienne, utilisée depuis l'Antiquité. Le saviez-vous ? En effet, le papyrus égyptien Ebers du XVIe siècle avant Jésus-Christ est un traité médical qui contient des prescriptions sur l'avortement.
Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Après les événements de mai 1968, l'heure est à la revendication de leurs droits pour les femmes. C'est pourquoi, en juin 1970, la loi Malhuret autorise l'autorité parentale conjointe. Car auparavant, seuls les hommes possédaient cette autorité.
Savais-tu qu'en 1970, c'est aussi l'année où le MLF a été créé ?
Mais c'est quoi ?
Mais enfin, tu sais bien, c'est le mouvement de libération des femmes !
D'ailleurs, ce mouvement a donné lieu le 20 novembre 1971 à une grande manifestation de femmes à Paris. Environ 2000 manifestantes revendiquent la liberté sexuelle, la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
Une partie d'entre elles se sont introduites dans une église où est célébré un mariage en scandant « Mariage ! Piège à con !» Ce fut la première grande manifestation féministe à Paris depuis 1936, où avait eu lieu une protestation pour le droit de vote des femmes.
Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne.
Non mais attendez, pour moi l'événement qui introduit réellement le droit à l'IVG, c'est le manifeste des 343. Je m'explique. En 1971, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur publie un manifeste signé par 343 femmes. C'est le manifeste des 343. De nombreuses personnalités déclarent avoir avorté et réclament ainsi l'avortement libre, telle la philosophe Simone de Beauvoir, l'écrivaine Marguerite Duras ou encore l'actrice Catherine Deneuve.
Ce serait pas simplement le contexte de l'année 1973 ?
Tu peux préciser ce que tu veux dire ?
Pas de panique, justement j'y viens. En 1973 est mise en place une commission spéciale pour étudier le projet de loi sur l'avortement. Cette année marque également la création du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui revendique la pratique de deux actes illégaux, tels que des départs collectifs pour avorter à l'étranger, ainsi que la méthode Carman, un acte médical simple, rapide et peu coûteux, consistant à aspirer le contenu utérin sans anesthésie, qui remplace le curetage, plus traumatisant pour la paroi utérine.
Je suis tout de même sûre que tout ça n'aurait pas été possible sans l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, le 19 mai 1974.
C'est vrai, dans l'année de son élection, il a grandement aidé à la cause féminine en présentant au Parlement deux textes de loi. Le premier aborde la contraception avec une vision plus large et supprime les interdictions d'avortement pour les mineurs grâce à la loi Neuwirth de 1967.
Le deuxième représente la loi du 17 janvier 1975, appelée loi Veil.
Pour rappel, Giscard d'Estaing était un homme d'État français et président de la République de 1974 à 1981, qui s'est éteint en 2020 à l'âge de 94 ans. Il était alors le plus jeune président de la République.
Paix à son âme !
Dis-moi, c'est quoi au juste la fameuse loi Veil ?
Derrière ce nom se cache un projet de loi porté par la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. Cette loi complète la loi Neuwirth et autorise enfin l'interruption volontaire de grossesse.
Ce projet de loi, présenté à l'Assemblée nationale devant une majorité de députés masculins, lui vaut des injures et des menaces de la part de l'extrême droite et de la droite parlementaire. La loi est adoptée pour une période expérimentale de 5 ans, puis rendue définitive en 1979.
Le remboursement de l'avortement par la Sécurité sociale est accordé aux femmes seulement en 1982.
Je me demande quelle était la relation entre Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil.
Eh bien, c'est lui qui nomme Simone Veil ministre de la Santé en 1974, ce sans quoi le projet de loi sur l'IVG n'aurait jamais été défini avec fermeté et dignité.
Plus tard, en 1979, elle sera la première femme élue présidente du Parlement européen.
Cette élection a été facilitée par l'appui apporté par le chancelier allemand Helmut Schmidt. Lors du décès de Simone Veil en 2017, l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing, bouleversé, a souhaité que « sa vie exemplaire reste une référence pour tous les jeunes d'aujourd'hui ».
Selon lui, « c'était une femme exceptionnelle qui avait connu les plus grands bonheurs et les plus grands malheurs de la vie ». Très jeune, elle avait souffert de la solitude et de la cruauté des camps de concentration de l'Allemagne hitlérienne.
Le 26 novembre 1974, Simone Veil, avec détermination et un grand courage, se présente à l'Assemblée nationale pour défendre sa loi qui fera date. Écoutons ensemble un extrait de son discours.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
Finalement, après 25 heures de discussion et malgré des oppositions virulentes, les députés adoptent le projet de loi avec 284 voix pour et 189 voix contre.
Voici comment la mobilisation a fini par aboutir. La loi sur l'avortement marque effectivement un tournant social historique pour les droits des femmes.
Désormais, elles disposent de leur corps et maîtrisent leur fécondité. C'est également un progrès de santé publique puisque les femmes ont accès à l'IVG dans des conditions sécurisées et encadrées.
Depuis 1975, des lois successives ont donc étendu et amélioré le cadre de prise en charge de l'avortement. Ces lois assurent en particulier le soutien de l'État dans cette démarche, afin que les femmes puissent bénéficier de bonnes conditions d'avortement pour protéger leur santé, avoir accès à l'IVG de manière anonyme et enfin avorter sans frais.
Mais attends, tu oublies un détail important dans l'histoire.
Oui, c'est vrai, j'oubliais. Il faut quand même préciser que le 4 mars 2024, le Congrès du Parlement à Versailles a inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution de notre République. Cela garantit l'irrévocabilité de ce droit sur notre territoire. Cela fait de la France le premier pays au monde à inclure cette liberté dans sa Constitution.
Mais depuis cette inscription dans la Constitution, certaines féministes ont critiqué l'utilisation du terme de « liberté à recourir à l'avortement » au lieu de la notion du droit à avorter, qui pourrait permettre une meilleure prise en charge si un gouvernement y étant peu favorable se retrouvait au pouvoir.
Cela fait suite à la restriction, voire à l'interdiction de cet acte médical dans de nombreux États. Mais alors, cela signifie que le droit à l'avortement est une lutte dans certains territoires du monde.
Nous espérons que cette émission vous a apporté de nouvelles connaissances sur les droits des femmes et son histoire, et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le show des bavards sur Info RC et...
À bientôt dans nos studios.
Le show des bavards, les ondes du passé, les chroniques des terminales générales du lycée Marcel Gimond.